cinéma est mort.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
En fait, c'est ce petit arbre qui m'a chopé. Je me suis fait avoir avec le petit arbre. C'est hallucinant. Il est tout seul. Comme moi. Comme nous. C'est sublime. Là, j'ai un copain qui me rejoint, donc je vais redémarrer parce que j'ai pas envie qu'il me voit pleurer.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez la première partie du programme du Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B consacrée à l'année 2025 avec bien évidemment le docteur Moreau, a.k.a. le patron. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Qui est accompagné comme finalement chaque année par notre intérimaire, Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc.
Salam alaikum.
Merci d'être avec nous et puis on a le plaisir d'accueillir encore une fois ces gens qui se sont enfin libérés de leur radio étudiante, à savoir tout d'abord Thomas. Bonjour Thomas, El Comandante.
Shalom les kids.
Merci Thomas d'être présent. Et puis Erwan, le doc. Bonjour Erwan.
Bonsoir.
Et merci à vous d'être... Oui quoi Erwan, déjà tu t'as à peine commencé.
Etienne, que... si je peux me permettre de vous interrompre avant de commencer, j'aimerais poser une question qui je pense permettrait un peu de mieux d'être cadrer les débats. J'aimerais bien savoir à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse au docteur Moreau, le critique acerbe à la plume trempée dans le vitriol du cinéma est mort, un peu comme un genre de Alain Duhamel de la critique cinéma finalement, ou alors est-ce que je parle à Antonin Moreau, le directeur artistique du cinéma Arvor, le Camelot du cinéma, le petit boutiquier de la culture?
Mais les deux, toujours.
Sauf que maintenant t'es de droite quand même, t'es un patron, t'es de droite.
Hein. Bah évidemment, mais voilà. Je suis aussi de gauche, je suis les deux. Je suis les deux, je suis pas
tu
ni
disais,
de droite ni de gauche.
Juste avant l'émission,
je
que
suis
tu
de
étais
droite
accablé
et de gauche.
Pris à la gorge par les normes européennes. Donc voilà, c'est pour savoir un petit peu où est-ce que tu te situes.
Et je laisserai l'auditeur en juger à voir si
les
lequel des docteurs.
Veut, alors, monsieur Moreau.
Commencez pas à gueuler dans vos micros, j'ai galéré à faire les niveaux. Hein. On est dans les studios de Canal B, ça faisait un an pile poil qu'on n'était pas venu dans les studios.
La dernière fois, ça s'est très mal passé.
Exactement.
Alors, on espère que ça se passera un peu mieux.
La table est remplie de victuailles. Et pour démarrer cette émission qui va être longue en plusieurs parties, hein, comme chaque année sans doute, à moins que quelqu'un fasse vraiment une grosse bêtise, on est parti pour plusieurs émissions quand même. On a décidé cette année de démarrer en vous proposant ces petits objets un peu plus fragiles qui n'ont pas forcément eu le mérite ni de la presse, ni en tout cas des spécialistes du cinéma, ou moins que certains. On gardera les PTA ou Bong Joon-ho ou autre saloperie pour une émission plus tardive, quand Jules aura peut-être perdu la capacité de parler correctement. et je proposais donc, et vous avez accepté, et c'est tant mieux parce que je ne vous aurais pas laissé le choix de toute façon, par un tour de table pour cette première heure où vous pourriez, je vous laisse quand même un temps de parole à tous, y compris à toi Thomas, comme quoi je ne suis vraiment pas un salaud. Donc voilà, un petit tour de table où vous allez pouvoir évoquer ces petits objets fragiles, par exemple réalisés par des femmes. Voilà, et bien évidemment, Antonin,
je ne cautionne pas.
C'est à toi. Je rappelle encore une fois qu'on est là vraiment pour promouvoir la diversité culturelle. On est tous les cinq autour
en
tant
que mâle blanc cisgenre.
Voilà, on est bien, on est entre nous, on a la liberté.
On a tous des coiffures différentes.
Voilà, exactement, c'est vrai.
Certains des lunettes, d'autres non. Voilà.
Mais c'est vrai que là, je vous ai tous les quatre en face de moi, c'est troublant. Hein. Vous devriez mettre des lunettes quand même, Antonin et Erwan. Ça, voilà. Mais Antonin, je te laisse la gloire, l'honneur, le plaisir de démarrer cette émission qui s'annonce d'ores et déjà dantesque.
Bah écoute, merci Étienne de cette politesse. Non, moi, bizarrement, j'ai pas fait exprès, j'ai un top paritaire.
T'as pas fait exprès, c'est pas vrai.
J'ai pas vraiment fait exprès parce qu'en fait j'ai voulu et j'ai poussé un petit peu en fait certains films parce qu'effectivement si j'ai fait exprès dans le sens où on en reparlera peut-être ou pas, mais moi mon top 1 c'est Le Rire et le Couteau. Voilà, il y a eu là Une bataille après l'autre que j'aime beaucoup qui est en deuxième, ou Make to My Love, mais j'ai essayé de pousser un peu dans le top des films qui m'ont, j'ai trouvé qu'en règle générale l'année 2025 c'était pas ouf quoi. J'ai pas eu des grands chocs hormis Le Rire et le Couteau et tout ça, j'ai pas eu de films absolument évidents qui m'ont fait dire waouh ou que je vais retourner voir plusieurs fois en salle ni rien, mais il y a eu quelques des premiers films ou des deuxièmes films qui m'ont fait dire tiens voilà, vraiment il y a la naissance d'un cinéaste, et en l'occurrence ça a été souvent d'une cinéaste. Alors moi je sais qu'il y a des, il y a Sorry Baby d'Eva Victor qui m'a beaucoup plu, un film indé américain, aussi Unfalling de Laura Carrera qui est un film anglais me semble-t-il, je crois qu'elle est, elle est portugaise ou pas, écossais, c'est pas l'Angleterre ça, non,
c'est le Royaume-Uni, mais c'est pas l'Angleterre. Ça. Mais effectivement, elle est portugaise, mais elle habite depuis des années.
Merci pour ces précisions. On sent ton bagage universitaire. Merci Thomas. Et aussi, donc moi deux films d'une cinéaste que là pour le coup qui a sorti deux films cette année, qui est Alexei Poukine, qui sont Sauf qui peut, qui est le premier film d'elle que j'ai pu voir, qui est un documentaire sur le milieu hospitalier, et Kika, qui a un petit peu plus fait parler de lui. Et ces deux films qui m'ont vraiment beaucoup plu cette année. Alors Kika, c'est vrai que le film a eu, on en a parlé, hein, c'est pas un film qui est complètement passé inaperçu, c'est un film qui a plutôt un bon retour presse, un bon retour public en tout cas des gens qui l'ont vu, même si le film n'a pas eu énormément de succès. Mais j'ai trouvé que vraiment il y avait une liberté de ton dans ce film qui m'a énormément plu, qu'un film qui doit commencer comme une comédie romantique, qui se prolonge dans une sorte de drame social et qui finit dans une sorte de ton de presque, enfin film très cringe, malaisant, mais tout en gardant une sorte de mood comédie. Et vraiment j'ai trouvé que la liberté de ton du film était assez folle, que portée par une actrice assez incroyable. Et en mettant ça en parallèle avec l'autre film que j'avais vu, Sauf qui peut, qui racontait, qui était un dispositif documentaire un peu particulier, qui racontait des interventions d'acteurs dans le milieu hospitalier, où des acteurs vont intervenir auprès de professionnels de la santé pour les mettre en situation à travers différents jeux de rôle, pour les mettre en face de situations compliquées qu'ils pourraient avoir dans leur travail, ne serait-ce que annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer de stade 3 et qu'il va mourir et tout ça, donc pour tester via des jeux de rôle leur empathie et leur facteur à pouvoir avoir une bonne interaction humaine en tout cas avec tous ces gens. Et donc il y avait toute une sorte de thématique du jeu de masque, du jeu de rôle, de tous ces masques sociaux qu'on peut endosser dans toute la vie, à travers toutes les identités qu'on peut avoir, à travers tous les cercles sociaux qu'on peut traverser, qu'on peut retrouver aussi dans Kika, à travers dans le monde de la prostitution SM, où là il s'agit encore une fois que de jeux de rôle, de jeux de domination consentie, avec des jeux de rôle assez précis, très non pas écrits mais très encadrés. Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait vraiment à travers en tout cas cette proximité thématique, je me suis dit moi étant de l'école un peu politique des auteurs, je me dis tiens, il y a vraiment une autrice là-dedans avec une vraie constance. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut donner plus tard sur ses prochains films. Et un autre film aussi que j'ai pas cité, qui est aussi cité, qui est aussi d'une autre réalisatrice, et je crois que c'est un deuxième long métrage, c'est Julia September de Ariane Labed, qui là pour le coup pareil a été un petit choc.
C'est son premier hein, comme comme réal, je crois.
C'est son premier, okay, premier, long métrage, donc, okay, premier long métrage. Ariane Labed, c'est une actrice, c'est une excellente actrice hein, qu'on voit régulièrement dans des productions un peu américaines, mais surtout françaises. Et alors là, pour le coup, film à la fois très doux et très vénéneux. Alors là, pour le coup, voilà, c'est vraiment le film où je me dis, bah, là, je veux voir vraiment tout ce qu'elle va faire derrière. Ouais. Pour l'anecdote, c'est Madame Yorgos Lanthimos, et ben, elle écrase son mec.
C'est pas forcément compliqué. Hein. On en parlera peut-être dans les flops de Lanthimos.
On a fait deux cette année, Lanthimos.
Ah, oh, bordel, le cauchemar. Seul, ouais, je vous laisse. Excusez-moi.
Non, non, pour moi, j'ai fini. C'était mon top. En tout cas, que je, autant de films que je mets dans mon top 10. Et en espérant vraiment qu'elle confirme, en tout cas, le talent que j'ai pu trouver chez elle.
Merci, docteur Moreau. Je continue, si vous le voulez bien, par ordre de présentation autour de la table. Et donc, j'invite Jules Topoc à nous présenter son petit coup de cœur. T'as la liberté quand même. On est à Canal B. La liberté, c'est important chez nous.
Et ben, ça va parler documentaire, avec deux documentaires qui mélangent cette éternelle petite et grande histoire. Il y a quand même, les années précédentes, il y avait beaucoup, beaucoup de films sur Gaza. Et ben, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de films sur l'Ukraine et sur les États-Unis. Donc, on démarre par l'Ukraine, avec à 2000 mètres d'Andriivka. Donc là, je suis incapable de me rappeler du nom et de la prononciation du mec qui a fait ça. Mais c'est une plongée sur 2000 mètres.
Martin Tchernov.
Comment est-ce que tu découvres, est-ce que je me permets de te couper tout de suite, parce que j'ai pu évoquer ce film avec d'autres gens et la question ça a été tout de suite, mais comment est-ce que tu es tombé là-dessus, parce que le film n'a pas été projeté en salle à ma connaissance en France.
Pas projeté en salle.
Il n'a pas eu de sortie à la télé.
Je crois que France 2 ouais, l'a projeté en fin d'année.
Ah ouais.
Et ça sentait un petit peu les Oscars. Je crois que ça a démarré là-dessus.
Comme il y a deux ans, ouais. 20 joueurs à Mariupol, par exemple.
Il y a un peu de ça, ouais, tu vois, où les Oscars, quand même, sont un peu des fois des friches sur les documentaires, des choses qui peuvent être un peu. On doit mettre les pieds dans le plat, c'est ultra dur. Et donc là, quand même, c'est par le biais des sites de téléchargement qui ne sont pas très disponibles, mais qui te donnent un petit aperçu de jour après jour.
T'es allé à Los Angeles.
Et en fait, là, bah, ça a coché toutes les cases de voir une réalité qui n'est pas accessible sur les écrans français ou. Et là, c'est vraiment, une incursion avec les soldats ukrainiens qui tentent de traverser 2000 mètres de sous-bois vers la ville d'Andriivka.
De sous-bois de la taille d'une 4 voies. Hein. C'est une forêt qui est tout en longueur.
C'est hallucinant. Enfin, tout est écrit. On dirait que c'est un scénario. On dit vraiment, t'as les mecs, les producteurs se sont dit, tiens, on va faire un film où on va suivre des soldats qui doivent investir une ville pour pouvoir gagner encore du terrain, mais sauf que à droite et à gauche, ça va être dévasté. C'est un no man's land qui est bombardé depuis des mois.
C'est un champ de mine en plus.
Et en fait, le truc est complètement taré. C'est un point of view film avec des Ukrainiens qui sont en colère, avec plein de gros mots et de la mort en direct, et avec des témoignages par-ci par-là, où sur 2000 mètres il y a des arrêts successifs où en fait le film est construit comme une pièce de théâtre où il y a des arrêts, et dans les arrêts où les mecs se font bombarder, il y a des personnages qui sortent des trous et qui te racontent leur vie. Ils disent, moi j'étais prof de sport, je faisais ça, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et en fait qui te balancent de la poésie en direct de la guerre
et qui meurent juste après,
assez taré. Et en fait tu te rends compte, voilà, t'as un accompagnement de ces gens-là sur la minute. Et en fait, le pouvoir du cinéma te ramène à... on est parti chercher un petit peu ce que ces gens sont devenus. Et forcément, ils sont tous quasiment morts. Donc c'est de la guerre en direct, comme j'ai rarement vu.
Ouais, parce que intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est de la guerre, mais en fait, c'est de la guerre d'escarmouche. C'est-à-dire que c'est pas une prise de ville énorme. C'est une ville qui est déjà dévastée, qui est juste en ruine. C'est une mission qui est apparemment assez simple. Il faut juste avancer de 2 km pour aller la capturer, mais ils sont bombardés.
Pas les premiers à tenter cette mission.
Ils sont attaqués par des drones en permanence. Et comme tu dis, effectivement, c'est monté un petit peu. Enfin, monté. la dramaturgie de la guerre en fait et la stratégie qu'ils ont donc les Ukrainiens pour aller capturer la ville, un peu effectivement celle d'une pièce de théâtre en acte où on va s'intéresser à différents personnages au fur et à mesure dans le feu de l'action où donc le caméraman quand même colle au cul des soldats ukrainiens et prend autant de risques qu'eux et c'est ponctué justement par ces moments de respiration, soit lui tout seul la nuit en train de filmer, essayer de voir ce qui se passe du côté du camp des Russes, ou les scènes de confession dans des tranchées, dans des abris de fortune de ces personnes-là, et qui effectivement te racontent comment la guerre contemporaine est encore pratiquée de nos jours, parce que basiquement, on a beau avoir 40 000 avions, des drones et compagnie, ça reste des fantassins en fait dans les tranchées, quoi.
Donc c'était hyper fort et donc le parallèle avec le deuxième film un peu pareil qui n'est pas sorti en France j'ai bien l'impression qui s'appelle The Perfect Neighbor, donc c'est un film américain qui a compilé des captations de caméras portées par des policiers américains, donc les dashcam je crois bien qu'on appelle ça, sur une carène américaine, une femme blanche qui habite en Floride et qui passe son temps encore et encore à appeler la police pour se plaindre du fait que les enfants du voisinage viennent jouer au foot, s'amuser devant son jardin qui est une propriété privée, qui n'est pas une propriété privée. Et en fait, c'est une accumulation de toutes les images d'archives des caméras sur 5, 6, 7 appels consécutifs au 911 pour dire il y a des enfants qui m'emmerdent, ils m'emmerdent, jusqu'à ce qu'il y ait un drame terrible. Avec une maman noire américaine qui se fait flinguer par cette carène-là. Et en fait, ce film-là compile en une heure et demie toute cette fragmentation de l'État américain qui se projette sur, j'ai bien l'impression, sur ce qui va se passer en France bientôt, sur cette énorme fracture et cette dissension de population qui n'arrive pas à se comprendre. Et en une heure et demie, il y a une compilation uniquement de captations de caméras portées au poing ou portées au niveau du buste, ou aussi des captations qui vont suivre le fait divers tragique dans le commissariat avec des caméras qui sont placées partout. Donc tu as l'impression que tu n'as pas de metteur en scène, ou tu as presque un peu à l'image de ce qu'a pu faire. Merde, il y a deux ans, on avait dit qu'un des plus grands films l'année dernière, c'était. La zone of interest où on posait des caméras et ensuite c'était uniquement par la loi du montage et qu'il n'y avait aucune posture de mise en scène là-dessus. Là c'est vraiment une espèce de redondance sur des caméras qui se posent et qui sont de fait choisies par ceux qui la portent d'avoir une force assez dingue sur est-ce que ça montre et de la violence de ce qui se passe aux États-Unis et sur un simple fait divers, ça amène une dimension nationale. Donc ça c'est hyper fort et c'est sorti il y a encore peu de temps, mais il faut se plonger sur ce film-là, Perfect Neighbor, c'est glaçant.
J'ai une question, comment est-ce que légalement tu peux exploiter les images des dashcam des flics?
Tout est flouté, mais en tout cas, ils ont réussi. Alors là, je pense que peut-être la Floride était ultra libérale sur ce point-là, ou je ne sais pas, mais en tout cas, comme ils ont peut-être vécu tellement de drames consécutifs, là, tout, il y a un jeu de montage, et chaque flic qui est sur la scène du crime, il y a le rush complet, et donc il y a une alternance de dire, bah, tiens, moi, je vais aller prendre un peu les témoignages des enfants, et puis après, ça enchaîne sur le témoignage de la maman, c'est un boulot aussi de montage assez dingue et de récupération de rush qui doit être assez conséquent. Ouais.
Mais est-ce qu'il y a une action en justice contre cette femme-là? Elle a été condamnée à quelque chose?
Le film te dira jusqu'au bout
s'il y avait un procès, que les images ont été versées au dossier, normalement elles deviennent publiques au bout d'un moment, d'accord. Donc j'imagine que tu peux les utiliser pour avec, j'imagine, l'assentiment de la police locale, etc.
Et de la famille, de la victime. Ouais.
Donc voilà, c'était mes deux funky movies, des bons films à mettre sous le sapin. Alors c'est pas facile.
Parce
vraiment,
que t'as pas vu ça, parce que globalement, tu m'envoies régulièrement à 9h du matin, tiens, je viens de voir un film, un petit documentaire bien rigolo. Sur les massacres, je sais pas quoi.
T'auras le temps plus tard, après le premier tour de table, pour y revenir, je pense. Thomas, c'est à ton tour. Merci, Jules Topoc, hein, pour cette présentation et ces deux films funky fresh. C'est bien pour démarrer. Voilà. Mais Thomas, ta petite découverte que les gens ne connaissent pas forcément, même si tu en as déjà parlé dans ton émission, je rappelle hein, quand même qu'Antonin Godard, en effet, est malheureusement toujours diffusé
tous les mardis
à 19h.
Régulièrement, exactement.
T'as vu, j'ai dit la bonne horaire cette année.
C'est bien, merci. Bravo, Étienne. C'est beau la maturité. Non, j'ai parlé de deux choses. Un film indien, parce que cette année, j'ai trouvé, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était assez décevant, y compris dans les grosses attentes. Mais un très beau film qui s'appelle Super Boys of Malegaon de Rima Kagdi, en fait, qui est basé sur un documentaire qui date de 2010 et qui porte le même nom. Donc, dans une petite ville d'Inde, en fait, une bande de cinéphiles s'amuse à refaire en fait les films qu'ils aimaient, tout simplement parce que souvent ils n'avaient pas les droits pour passer les films, ils ne trouvaient pas des copies pour les passer dans leur cinéma local. Donc effectivement, ils font des films un peu suédés, comme on dit. Et ils commencent en fait par refaire des classiques du cinéma indien. Ils refont notamment Cholet, le film de 1975, Le Grand Polar. Et en fait, ça cartonne dans leur bled. Et en fait, ils se décident à en faire d'autres au fur et à mesure. Et en fait, ils vont refaire Superman, le film de Donner. Et donc c'est une histoire d'amitié entre ces mecs-là autour de la cinéphilie, et donc d'autant que évidemment celui qui joue le rôle principal, qui est un mec tout queux, c'est un brin maladif justement parce qu'il a un cancer, et donc ça va être en plus cette histoire de l'acceptation de la maladie, de la mort qui vient, et comment est-ce que le film qu'ils sont en train de tourner va en fait devenir un hommage à leur pote qui est en train de littéralement de crever quasiment devant l'écran, quoi. Et donc en partant de ce film documentaire là, donc de 2010, qui était déjà extrêmement dur et extrêmement émouvant, ils arrivent à en faire un film de fiction qui fonctionne un petit peu sur les mêmes registres, en utilisant évidemment des principes de mise en scène qui sont plus ceux du cinéma de fiction que du cinéma documentaire. Donc ça réécrit certaines choses, ça donne un peu plus d'amplitude, et au final ça donne un film qui est extrêmement doux, qui est extrêmement émouvant, avec un amour sincère et pétri de tous les personnages pour le cinéma, de comment est-ce que les mecs s'engueulent pour aller faire des plans, pourquoi est-ce qu'ils s'investissent autant dans ce projet-là alors qu'il y a quand même un de leurs meilleurs amis qui est en train de crever. Et c'était une des très belles découvertes de cette année, Super Boys of Malegaon.
T'en avais encore un autre, non, à nous proposer?
Oui, j'avais Officer and Duty, mais en fait j'ai enlevé parce que je t'ai dit que ma liste bougeait en ce moment, mais qui est un excellent polar du sud de l'Inde, Officer and Duty aussi, mais qui est beaucoup plus rude, beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent quand même.
T'avais évoqué, alors tu en as parlé dans ton émission déjà, mais c'est vrai que chez nous, au Cinéma est mort, on n'en a pas causé. Vous en parliez en rantaine déjà avec Topok tout à l'heure, c'est Adam Curtis, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, Adam Curtis qui a sorti un nouvelle série documentaire Fluff cette année. Sa dernière, c'était il y a 2 ans, ça s'appelait Traumazone Russia 1985-1999.
Les auditeurs ne connaissent pas forcément
Adam Curtis. En fait, c'est un documentariste et un essayiste qui bosse à la télévision anglaise depuis la fin des années 80. Et il est connu comme, en fait, il a accès à tout le fonds d'archives de la BBC, et où les opérateurs et les cinéastes de la BBC en fait allaient depuis le début du siècle. Enfin, du siècle dernier, aux quatre coins du monde, par les films, plein d'images. En fait, ils ont une banque d'archives absolument hallucinante et des tonnes d'archives de toute l'histoire en fait du XXe siècle et du début du XXIe. Et Adam Curtis, depuis des années, il a accès à ça et il fait des films de montage autour de ces archives, à chaque fois sur différentes thématiques. C'est beaucoup sur des questions de manipulation médiatique, de l'émergence de personnalités politiques, par exemple. Il y a eu avec Kadhafi dans Hyper normalisation en 2016, et souvent en fait c'est son principe de mise en scène, donc c'est
son principe de mise en scène, c'est en fait c'est vachement plus compliqué.
Voilà. It was a lie. En fait, c'est comment mettre en relation des événements culturels, des événements politiques, des faits idéologiques. Et donc ce sont des films de montage d'archives où généralement il avait une voix off, où lui-même faisait la narration en fait pour expliquer un petit peu les choses qui se passaient. Et ce qu'il fait depuis 2 documentaires, donc son film sur la fin de la Russie soviétique et on va dire l'époque du dégel, et son dernier donc qui s'appelle Shifty, Living in Britain at the End of the 20th Century. Là, en fait, c'est encore des montages d'archives avec de la musique donc, qui met par-dessus. Il y aura les specials, il y a beaucoup de...
Donc, sur les années 80-90
Voilà, c'est ouais. Ça, sur la années 80-90, même jusqu'à la fin du blairisme dans les années 2000. Donc, l'histoire de l'Angleterre, où là, il y aura juste des cartons ou bien des sous-titres. Il n'y aura plus de voix-off. Donc, c'est vraiment un truc purement narratif presque par le flux des images, et il te raconte en fait comment est-ce que le libéralisme anglais, donc l'époque de Thatcher et compagnie, a mené à tout le merdier où l'Angleterre est actuellement, on va dire, jusqu'au moment du Brexit. Et donc il te raconte ça juste par le prisme d'archives et par des correspondances de montage qui sont toujours extrêmement hyper astucieuses, qui sont très malignes, qui sont très bien vues, et il y a un déluge, un vertige d'images et d'informations qui arrivent sur les 5h30 que dure ce documentaire-là. Parce qu'en général, il fait des documentaires assez longs. Son film sur la Russie, il faisait 7h, Can't Get You Out of My Head. Son précédent encore, c'était 6. Enfin, ça aussi entre 2h30 et puis 7h30 en général. Et c'est toujours un très grand documentariste, Adam Curtis.
Je vois que Topok veut participer. Je vais te laisser la place. Où est-ce que c'est disponible aussi, ce Adam Curtis?
Alors, ils sont tous sur le site de la BBC. Ils sont tous sur le site de la BBC, sur le site de Adam Curtis. Et sur,
mais du coup, c'est sans les sous-titres français, ce qui peut poser problème.
Il y a
à
souvent que
nous,
des sous-titres anglais, mais si vous avez une compréhension quand même assez correcte de l'anglais, Adam Curtis a une manière de parler qui est vraiment un anglais très écrit et très littéraire, et il a un phrasé extrêmement clair et assez spécifique pour le coup. Il n'a pas de gros accent cockney, il n'est pas australien, tu vois, donc c'est vrai. Et il y a des sous-titres anglais, par exemple sur les chaînes YouTube d'Adam Curtis, vous pouvez mettre des sous-titres anglais sur quasiment tous ses films.
Jules Topok, tu voulais...
Moi, je l'ai découvert grâce à ton point de vue, et de dire de pouvoir me lancer là-dessus. Et au-delà de la... Bah, ça se regarde sur 5h, 6h, et sur qu'on soit friand ou non de la culture anglaise, de voir mais des images d'archives complètement dingues. Tu te dis, mais... Et puis, il y a surtout cette accumulation et ces punchlines écrites, la somme et le boulot de montage et de finesse, comme tu disais, d'assemblage, de pouvoir vraiment faire se parler des paroles d'une chanson de Joy Division avec des manifestations à Belfast, et donc il y a vraiment un travail hallucinant de boulot monstre.
Des connexions qu'il peut faire, lui, qu'il est capable
d'établir. Vraiment, ça pourrait presque faire une année du zapping, mais avec vraiment un recul et un point de vue assez dingue sur sa propre nation, puisque vraiment il est au cœur de ça. Où nous, on a, enfin moi, de mon point de vue, j'avais une petite vision de l'Angleterre et les années de Thatcher. Et en fait, là, il te fait un cours d'histoire monumental. Avec de la musique, avec des contestations, avec du plaisir, avec de la bagarre, avec des... c'est assez monumental comme travail en tant que tel de mise en scène, et comme plaisir de spectateur, où tu te dis putain, tu rebondis de plein de trucs, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette nation de dingo, et ouais, c'était un gros plaisir de fin d'année, ouais.
Merci Thomas, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je signale comme que sur Adam Curtis, il y a un ouvrage qui est sorti aux éditions Façonnage il y a 3 ans et qui a été réédité avec des articles sur les derniers films dans le courant de l'année. Donc les éditions Façonnage, où il y avait Jackie Goldberg, François Coe de Discordian, notre camarade, Jérôme Dittmar, qui écrivent chacun en fait un texte sur les films de Adam Curtis, et c'est suivi en conclusion par un entretien de 80 pages à peu près avec Curtis, où justement il parle de toutes ses méthodes de travail, comment est-ce qu'il envisage justement son travail en tant que journaliste, parce que lui il refuse de se dire cinéaste, il est un journaliste, et comment est-ce qu'en fait il bosse, et comment est-ce que la BBC lui permet de bosser dans ce cadre-là, justement. C'est vraiment un bouquin passionnant.
Peut-être évoquer, ça me fait penser, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas forcément de faire des nécros pendant cette émission, mais j'ai l'impression que c'est passé un petit peu trop sous silence, mais c'est le décès justement de Peter Watkins, et oui. La façon dont tu parles de Adam Curtis me fait quand même penser au travail qu'a pu fournir Peter Watkins, qui était un cinéaste vraiment très important, qui s'était isolé depuis
pas mal,
20
ans. Bon, je trouve qu'il y a pas mal de liens avec Marker, hein, quand même.
Oui, aussi.
L'art des
oui, mais il n'est pas mort cette année.
Non, mais l'art des correspondances. Voilà, parce que Watkins, c'était quand même plutôt du faux documentaire, on va dire. Plutôt voilà, dans du mockumentary, on va dire, politique, quoi. Alors que là, en termes de forme, on est vraiment dans du film de montage.
De la manipulation consciente, on va dire, chez
Watkins. Qu'il avait travaillé, en effet, la forme et... bon, bref. Mais c'était mon petit moment, t'es pas obligé de le gâcher, pour faire un petit hommage à Peter Watkins, et que les gens n'oublient pas qu'il existe et qu'on peut retrouver ses films en DVD.
Ça rapport avec Rob Reiner, aussi, qui est décédé.
Mais Erwan, tu as pris la parole, et c'est tant mieux, puisque c'est à toi qu'on propose de prendre la parole pour évoquer toi aussi. Et dans ton top, il y avait quand même majoritairement des films justement dont nous on n'a pas causé dans notre émission, que les gens
c'est
dont les gens
parce que vous faites pas beaucoup d'émissions.
Ah oui, mais elles sont de qualité. Hein, c'est pas la peine d'en faire toutes les semaines si c'est pas de qualité. Nous, on en fait moins. Mais voilà, il y a moins de choses à acheter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Pas sûr, sans le terme.
Erwan, je t'en prie.
Bon, alors moi, ce sera deux fictions. du coup. Classique que je le rangerai dans la catégorie classique mais efficace, puisque moi je suis pas du tout un ennemi du classicisme et j'ai pas forcément. J'aime bien l'avant-gardisme aussi, mais j'aime bien.
Il y a que Topok qui est ennemi du classicisme.
Voilà, ça, j'aime bien. Ouais. Moi je sais que j'aime bien alterner aussi avec des. J'aime bien alterner avec des voilà avec des choses plus plus classiques dans la forme, mais qui voilà mais qui peuvent me toucher néanmoins.
Christian Clavier.
Alors je me laisserai pas toucher par Christian Clavier si je peux avoir le choix personnellement.
Il a rien lui contre lui.
Pour l'instant. Moi je mettrais deux films que j'ai vus alors qui sont l'un qui a été un petit peu médiatisé, l'autre moins quand même, beaucoup moins. Celui qui a été médiatisé, c'est ce film roumain qui s'appelle Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu. Voilà, Mureșanu.
Qui faisait à l'Arvor.
Qui passait à l'Arvor, tout à fait, et qui est donc un film choral sur la dernière journée, en fait, avant la chute de Ceaușescu. Donc, journée qui s'achève par un grand discours de Ceaușescu sur la place du peuple où il se fait huer par les gens, où il se fait huer par les ouvriers qui avaient été conviés de force.
Les gens sont vraiment ingrats.
Hein. Et donc, il y a toute une partie, notamment du film, donc il y a plusieurs personnages et il y a toute une partie donc ça brasse plein de d'éléments différents de la société roumaine, c'est-à-dire que à la fois il y a tout un truc autour des questions de logement et de relogement, voilà, si on est cadre du parti etc ou pas, et notamment il y a toute une partie, moi qui est la partie qui m'a le plus intéressé en fait, où il y a un réalisateur en fait qui doit faire une émission du Nouvel An. Et en fait, le problème, c'est que l'émission du Nouvel An, en fait, donc il y a une espèce de chorale avec une fille au milieu, et la fille au milieu, en fait, ils apprennent au début du film, ils apprennent que la fille vient de se barrer à l'ouest, elle vient de faire défection. Donc, il faut trouver une autre actrice pour refaire la scène, pour retourner la scène. Et donc, en fait, il y a toute une espèce de parabole sur la servitude volontaire, en fait, de ces mecs qui sont réalisateurs, qui travaillent pour la télévision et qui, en fait, se finissent par se mettre des ulcères, en fait, parce qu'ils ont tellement peur de déplaire au pouvoir, ils ont tellement peur pour eux, pour leur famille, pour leur carrière, etc., etc., qui se retrouvent à faire des trucs complètement absurdes et à essayer de trouver des castings. Alors ils tombent sur une actrice qui est une actrice de théâtre mais qui n'a pas du tout envie de faire le truc. Enfin voilà. Et ça, c'est plutôt, je trouve que c'était plutôt intéressant la manière dont dans une dictature, comment est-ce qu'on crée la soumission en fait. Quoi. Comment est-ce qu'on, au bout d'un moment, on a même plus besoin d'avoir de répression finalement, puisque la soumission se fait d'elle-même. Et donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'était assez intéressant de voilà, il y avait des parties dans ce film-là que je trouvais bien. Et surtout, moi je trouve des acteurs roumains qui étaient que j'ai toujours été tous nickel, quoi, en fait, quoi. Tout le monde joue super bien, enfin voilà, et moi j'y ai vraiment cru. C'est la première des 5 ou 6 fois dans l'année où j'ai entendu le Boléro de Ravel, où je me suis dit, tiens, il n'y a plus de droit.
Oui, c'est vrai, en plus.
Parce que cette année, c'est l'année du Boléro de Ravel, hein, voilà, il y a eu trois Dracula et 5 films au minimum avec le Boléro de Ravel, voilà, donc c'était un peu l'année des trucs à répétition. Et c'était la première fois que j'entendais le Boléro voilà, en fin de scène, voilà. Mais qui n'est pas totalement dénué d'intérêt dans la mesure où c'est un film choral.
C'est donc quand même vachement bien, le Boléro, faut pas déconner.
Ouais, moi je sais que c'est une des musiques qui fait le plus chier mon père.
Tu parles des vêtements, Étienne ou...
coucou papa. Voilà.
C'est quel reste, voilà,
mon père,
il faut réhabiliter Ravel.
Mon père déteste le Boléro de Ravel, ça l'emmerde à un point.
Mais oui, vous êtes fort. Là, le Boléro, forcément, c'est André Rieu, non.
Fait,
c'est quand même pas mal.
Pardon. Voilà. Mais qui a dit ça?
J'entends beaucoup de gens le dire, mais des gens qui écoutent peut-être Ravel ou pas assez. Bref, ça ne te regarde pas. Ne nous dérange pas, on est en train de discuter,
voilà, donc,
Thomas.
Donc, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, je sais pas pourquoi je veux absolument qu'il y ait un T à arriver, qui n'est jamais arrivé.
C'est du roumain, c'est pour ça.
De Bogdan Mureșanu. Et le deuxième, voilà, il y en a d'autres dont je voudrais parler, mais on va se limiter à deux pour l'instant. Le deuxième que moi j'ai bien aimé de manière assez surprenante, c'était Tu ne mentiras point, film irlandais de Tim Millant. Film qui paye pas de mine quand on le voit comme ça, parce que c'est un film sur un sujet, voilà, il y a plein de gens qui ont dit oh bah ouais mais ça a déjà été fait, puisque c'est un sujet qui tourne autour de ce qu'on appelle les couvents de la Madeleine, hein, donc ces fameux couvents voilà, où on mettait les jeunes femmes, soit qui tombaient enceintes hors mariage, soit qui étaient considérées comme un peu trop délurées,
les Magdalene Sisters,
voilà, les Magdalene Sisters, et qui avaient déjà fait l'objet d'un film de Peter Mulan, voilà, qui avait eu pas mal de succès à la fin des années 90, si mes souvenirs sont bons, tout début des années 2000, The Magdalene Sisters. Et donc là en fait c'est ça, mais c'est presque presque le contre-champ de ça. Puisqu'en fait, ça raconte l'histoire d'un personnage qui est charbonnier, qui est interprété par Cillian Murphy, puisqu'on ne dit pas Cillian, mais Cillian apparemment. Donc Cillian Murphy,
c'est l'homme détestable qui joue dans Peaky Blinders.
C'est ça, exactement. Et qui, à force de maigrir, va finir par disparaître.
Il se rétracte, il se rétrécit,
s'assèche au fur et à mesure des années.
Moi aussi, il m'inquiète un petit peu.
Et donc, il joue le rôle d'un charbonnier, en fait, qui, dans les années 80, en fait, qui livre du charbon partout dans le village, et donc notamment dans ce fameux couvent où il repère bien qu'il y a des trucs pas clairs qui se passent. Et il fait rien. Et en fait, c'est un film, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est un film sur. Et c'est marrant, ça, moi j'ai vraiment trouvé que ça rejoignait quelque part la fin de la zone d'intérêt. Alors, dans un mode mineur, hein, mais ça rejoint un petit peu l'idée que face à une situation d'injustice criante, on peut se plonger dans le déni, mais le corps finit par réagir. Et ça, je trouve que Cillian Murphy le fait très bien dans ce film-là. C'est-à-dire que le mec, on a vraiment l'impression, plus le film avance, plus on a l'impression qu'il a une espèce de poids sur ses épaules, quoi. Il y a une espèce de culpabilité non dite, parce que le mec est taiseux, donc voilà, il parle pas avec sa femme, et tout le monde lui dit, remue pas la merde, voilà. Et c'est pas du tout un film à thèse. C'est-à-dire que c'est pas un film où le mec va se dresser, et puis va mettre des coups de pied dans les portes pour dire, ah, libérer ces jeunes filles et tout ça. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est un film sur un mec qui doit faire face à son propre déni à lui, en fait, quoi. Donc c'est un film, moi je trouve, assez intéressant, parce que c'est pas un brave type, il est complice comme les autres, sauf que lui il y a quelque chose qui finit par le gêner physiquement, en fait, et cette gêne physique finit par avoir une implication morale, en fait, et le signe d'une gêne morale, en fait, qui va contre sa religion, qui va contre le respect, qui va contre sa classe sociale, puisque lui, c'est un prolétaire, donc les bonnes sœurs, tout ça, ça rigole pas, enfin voilà, on a du respect, tout ça, et donc ça va contre tout ce qu'il est, en fait, et quelque part comme si son corps était capable de ressentir une injustice que tout son esprit essaye de refouler. Et j'ai trouvé que Cillian Murphy le faisait très très bien. C'est un film qui est pas marrant, mais c'est un film qui est, sur la conscience, en fait, et sur ce que ça peut être physiquement que d'avoir des problèmes de conscience. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film plutôt intéressant, même si c'est pas un film très fun. Voilà.
Merci Erwan. Je vous propose, à moins que quelqu'un ait envie de rajouter quelque chose.
Mais vous, Étienne.
De faire. Non, moi j'ai rien de...
Bah, quand même.
Mais non, j'ai pas vu de film cette année. Tous les films que j'ai vus qui m'ont.
Chasse gardée 2, quand même. Tu nous as dit que t'avais bien aimé.
Tu nous as dit que. Spectacle de Jean-Baptiste Le Caplain.
De Baptiste Le Caplain.
Regarde ça pour une prochaine émission.
Sacré cœur, est-ce qu'on en parle, quoi. Voilà,
c'est pas bien.
J'ai vu des choses, bien évidemment.
Quelle surprise.
Je me les garde pour plus tard.
De bonne foi, une comédie cato avec Pascal Demolon.
Et de faire une courte pause musicale.
Une bonne soirée avec Isabelle Nanty.
J'ai oublié d'où vient ton morceau d'Ennio Morricone, mais je me suis dit, tiens, je le passerai bien quand même parce que c'est
Agente
italien,
Secreto.
Ça vient.
Agente Secreto.
Et ben justement, donc on fait une courte pause. On écoute ce petit morceau d'Ennio Morricone qui a été déterré et balancé dans un film dont vous parlerez, et on se retrouve juste après.
Da 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 da
C'était un morceau d'Ennio Morricone qui est donc exploité dans le film L'Agent Secret, hein, et que justement, vu qu'il nous reste un peu de temps pour faire cette émission, et Thomas, tu vas pouvoir nous dire, ça vient de quel film?
Ça vient du film Merci ma tante, Grazie Zia, de Salvatore Samperi en 1968.
Non, ça fait partie de ces films dont Morricone a composé la musique, qui n'ont pas, en tout cas en France, chez nous aujourd'hui, les gens ne le connaissent pas, quoi, hein, grosso modo. L'Agent Secret qui apparaît un petit peu dans des tops de critiques, de machin, mais assez peu parce qu'il est sorti finalement la semaine dernière.
Il est sorti le 16 décembre.
Ah, le 16 décembre. Oui. Et donc il a mis un peu de temps à faire son apparition et à faire parler de lui. Et vous, justement, il apparaît dans vos tops. Alors qu'est-ce que c'est l'Agent Secret?
Ouais, alors moi, pour le coup, c'était clairement.
Bon, il était passé à Cannes.
Il était à Cannes.
Il a eu deux prix.
Il a eu le prix du meilleur interprète pour Wagner Moura et le grand prix du jury, je crois.
La mise en scène.
Le prix de la mise en scène. Moi, c'était clairement une des plus grosses attentes de l'année, parce que Kleber Mendoza Filho, donc qui est le metteur en scène du film, ne m'a jusque-là jamais déçu. Réalisateur brésilien, il a un peu moins d'une cinquantaine d'années. Il était apparu, en fait, il y a une quinzaine d'années, avec son premier long-métrage de fiction, Les Bruits de Récif, qui très vite avait été suivi par Aquarius, Bakuro, il y a quelques années, un film qu'il avait co-réalisé. Et il avait sorti l'année dernière un documentaire qui s'appelait Portrait Fantôme, avec lequel l'agent secret entretient pour le coup...
Carrément.
Énormément carrément, de liens. Quoi. Et en fait, Mendoza Filho, c'est quelqu'un qui vient du Nord-Est, donc au nord du Brésil, et notamment de la ville de Recife, où se passe l'action de la majorité de ses films, à part Bakuro, qui ne se passe pas à Recife, mais qui se passe encore dans les territoires du nord du Brésil, qui est historiquement un territoire où il y a beaucoup plus de peuples premiers du Brésil que le sud, qui est un territoire beaucoup plus blanc et aussi beaucoup plus raciste. Les bolsonaristes, maintenant, à peu près cette mouvance-là, on va dire.
Ils vont voir les drapeaux sudistes comme aux États-Unis.
Exactement, c'est ça. Et en fait, avec l'agent secret, là, il remonte à la fin des années 70 et 77, je crois, au moment du top du game de la dictature donc au Brésil, où on suit un personnage un peu mystérieux, donc incarné par Wagner Moura, qui est absolument merveilleux et magnifique dedans, qui a vraiment un pur look de ouf, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a tous envie de s'habiller, avec des chemises ouvertes jusqu'au nombril et des chaînes en or, quoi.
Tous, alors quand tu dis tous, c'est toi quand même.
Etienne, toi aussi, enfin je te vois bien, là t'as une chemise à fleurs et tout.
Boutonné.
Oui, mais parce que c'est l'hiver. Et donc on va suivre ce personnage qui justement... quitte les grandes villes du Brésil pour arriver dans la ville de Recife, et on va suivre ce personnage-là qui est un peu trouble, un peu étrange. On ne sait pas justement pourquoi est-ce que il se cache, pourquoi est-ce qu'il est recherché par des flics, est-ce qu'il est agent infiltré, est-ce qu'il est recherché par des agents du pouvoir. Et au fur et à mesure des 2h40 donc de cette narration, on va découvrir effectivement un peu plus de son passé, des liens avec le monde contemporain. Et ce qui intéresse beaucoup Mendoza Filho dans quasiment toute sa filmographie, et notamment donc le lien avec son film précédent, donc Portrait Fantôme, c'est sur la question de la mémoire et la question de la subsistance des histoires et des événements qui sont presque devenus des mythes, comme ils ont été cachés par la dictature. Et donc comment est-ce qu'en fait il va faire les liens et des allers-retours entre les drames du passé et les traces qu'il va y avoir donc au présent. Moi, ça me fait pas mal penser au film de Patricio Guzmán, mais lui fait ça donc son propre pays, qui est le Chili, ou notamment dans toute une trilogie de documentaires qu'il avait fait au début des années 2000, et notamment La Cordillère des Songes. Guzmán travaillait dedans en fait la question des morts ou des disparus pendant la dictature de Pinochet, et les traces qui pouvaient en rester, en le mettant en parallèle avec l'observation du cosmos dans le désert d'Atacama. Et je trouve qu'il y a des choses...
C'était dans Nostalgie de la Lumière, ça, très exactement.
Nostalgie de la Lumière, oui, pardon. Et je trouve qu'effectivement, il y a des choses dans le cinéma de Mendoza, dans son rapport à l'histoire de la dictature, qui se retrouvent là-dedans, mais il emballe ça dans un univers donc, purement fictionnel, qui est à la fois extrêmement doux, extrêmement chaleureux. Il y a des scènes de famille dans une communauté qui sont absolument merveilleuses, mais où tout est... sous-tendu par une tension qui est là en permanence, un sentiment de paranoïa qui envahit peu à peu tous les personnages et que je trouve maîtrisé avec une grâce absolument folle.
J'ai du mal à imaginer, parce que j'ai vu ni bande-annonce ni quoi que ce soit de l'agent secret, j'ai du mal à imaginer visuellement à quoi ça peut ressembler. Est-ce qu'on a affaire à une caméra à l'épaule?
Non,
est-ce qu'on a des plans fixes?
Non, c'est très
un cadre...
rutilant, c'est très généreux visuellement comme film.
Très ensoleillé.
Ouais, je suis plutôt assez réservé sur le film, mais il y a une sélection qui est instantanée en fait, qui m'a...
Le film est extrêmement beau.
Ouais, en termes visuels, en termes de mise en scène, il y a une générosité, en termes de musical,
c'est très
ça,
élégant.
En termes de il y a ça. Moi ça n'a pas empêché
un peu à la Scorsese. C'est quoi,
alors c'est pour très moi, pop, c'est moins qu'un camp que Scorsese,
en ouais. fait. Moi le film, ça m'a vachement interrogé, ce film là je l'ai un peu mal vu, hein. Je l'ai vu en deux fois, et à un moment je me suis dit, mais à quoi ça me fait penser, ce truc là, cette sorte de rutilance, cette joie de la reconstitution, parce qu'il y a vraiment il y a un côté très très on pourrait a priori très classique dans cette volonté, cette on voit ce goût, cet appétit pour faire une reconstitution presque pop de tous les trucs qu'on a aimé à une époque, et ça m'a vraiment fait penser,
qui est aussi une reconstitution de sa propre jeunesse.
Ouais, aussi, et ça m'a fait penser à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino.
Il y a un truc qui est très drôle beaucoup. D'ailleurs, parce que Mendo Safilo, il a fait il y a pas longtemps un entretien croisé avec Roger Deakins, où Mendo Safilo, il dit à Deakins que le film a coûté moins de 10 millions de dollars, et puis Deakins, tu fais, mais comment c'est possible, avec 10 millions de dollars tu peux même pas éclairer un film, enfin. Et c'est vraiment des toutes petites prods, parce que l'industrie du cinéma brésilien aussi n'est pas du tout la même que celle du cinéma américain, mais effectivement en termes de juste de travail technique, c'est quand même assez impressionnant.
Alors, le truc, effectivement, le lien que tu traces avec Guzman, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça me semble assez pertinent, parce qu'effectivement, c'est deux cinéastes en fait qui ont une approche, topographique en fait de la fiction. C'est-à-dire que quand t'as, et ça, mais je pense que franchement, pour voir L'Agent Secret, faut quasiment. Moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié d'avoir vu Portrait Fantôme avant, parce qu'en fait, quand tu regardes Portrait Fantôme, il t'explique en fait, il y a toute une partie du film où c'est sur les cinémas à Récif. Voilà. Donc il y a une espèce de rivière, en fait, c'est au bord de la mer, Récif.
Quelqu'un en avait parlé des émissions précédentes, je crois.
L'année dernière.
Et en fait, le fameux cinéma São Luís, dans lequel il me semble qu'il a des billes dedans, en fait, oui. Kleber Mendoza Filho, en fait, parce qu'en fait c'est des cinémas dans lesquels il allait quand il était jeune, et la plupart de ces cinémas ont fermé les uns après les autres, en fait, c'est devenu une espèce
de
temple.
Des hôpitaux. Voilà.
Et donc dans Portrait Fantôme, il refait l'historique en fait de toutes ces salles de cinéma, dont il y en a plus beaucoup qui sont ouvertes. Et tu vois, quand j'ai vu en regardant L'Agent Secret, c'est marrant, quand la scène dans la salle de projection, j'ai tout de suite reconnu la salle de projection du São Luís, ce qui fait qu'en fait tu regardes ces films, et au bout d'un moment, quand tu as vu tous les films de Filho, en fait, de Mendoza Filho,
il y a de la familiarité.
Voilà, il y a de la familiarité, et t'as presque l'impression de revenir dans un monde que tu connais déjà, en fait. C'est-à-dire que topographiquement, tu dis, ah mais oui, c'est vrai, il y a la rivière qui passe là, il y a un pont, et en face le cinéma, c'est juste. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Récif.
Mais comme il y a beaucoup les mêmes acteurs, ouais, aussi qui reviennent dans des seconds rôles chez lui.
Et moi, j'ai rarement vu ça au cinéma, ce sentiment en fait de reconnaître la ville, c'est-à-dire que si on me mettait à Récif dans le centre, je serais probablement capable de me diriger uniquement avec les films de ce type-là, en fait. Et je trouve qu'il y a un truc, très bien. En plus, il y a tout un aspect cinéphile, moi, que je trouve très bien, sur les Dents de la Mer.
Et qui n'est pas pesant, ou qui n'est pas.
Et surtout qui a à voir avec la réalité. Parce que dans le film, il y a une histoire de requin aussi, mais qui n'a pas la même valeur que. Voilà. Il y a une histoire de jambes coupées. Il y a une histoire de jambes coupées, alors qu'il y a un truc vrai, en fait. Hein, moi,
en fait, il mêle ça avec des légendes urbaine de Récif, et d'un coup, alors, ça part dans un truc un peu plus grotesque, un peu plus fantastique, et ça revient après à des choses plus pragmatiques et bassement violentes, on va dire.
Oui, ça mélange vraiment, il y a des tas d'ambiances différentes, en fait, dans ce film-là, quoi.
Bah moi, je serais curieux, comme je ne l'ai pas vu, je serais curieux de voir un peu le lien que tu as fait, peut-être avec Once Upon a Time, de revenir là-dessus, parce que tu as...
En fait, moi, je ne pourrais pas creuser beaucoup plus loin ce lien-là, c'est juste que j'étais toujours un peu interrogé sur... le rapport que pouvaient avoir plein de gens à Once Upon a Time in Hollywood, où pour moi c'est un lien un peu secret, où chaque fois j'ai un enthousiasme complètement fou par rapport à ça, et en même temps parce que je sens que je maîtrise à peu près toutes les références du cinéaste,
ouais, c'est un monde que tu connais.
Et que je vois bien que le film, il peut être assez abscon pour quelqu'un qui ne les a pas, ou qui va pas voir un petit peu ce qui se trame derrière le truc. Et là, c'est ce que j'ai ressenti devant l'agent secret, c'est effectivement, j'ai ressenti un petit peu tout ce... Sans connaître à fond Kleber Mendoza Filho, je sais l'impact que ça a pu avoir Once Upon a Time in Hollywood sur beaucoup de réalisateurs. Je pense que, et je sens, c'est une trace que je trouve chez beaucoup de films, et d'autres de cette année-là aussi, One Battle After Another, c'en est une aussi. Je pense que j'ai l'impression que c'était très codé, que tout le côté un petit peu souterrain du film, tout ce qu'il met hors champ, justement, le film ne travaille que sur ça, hein, aussi, hein, sur une sorte d'une intrigue qui est un petit peu impossibiline, sans être complètement
pour un Brésilien, je pense que c'est plus clair que pour nous,
bien sûr,
français,
bien sûr,
quoi.
Et sans être ignare dans toute l'histoire là, enfin, je sais que même cette année il y a eu un autre film aussi là-dessus qui travaille le même sujet,
Walter Salles,
qui est un peu plus désespérément classique à mon sens, hein, un truc un peu le tout venant, on va dire,
c'est plus ludique, moi je trouve,
mais
quelque part
il y a un truc plus ludique, mais je le trouvais, moi ça m'a vraiment, j'avais l'impression que y avait ce côté un petit peu plaisir immédiat et en même temps tout le côté intéressant, je sentais que ça nécessitait un effort de reconnexion, un truc codé, le truc de la jambe, tu vois. Après j'ai lu des entretiens avec Klemmbert Midossé-Filio qui dit ouais, la jambe poilue c'est un code parce que c'était la jambe poilue, c'était le nom qu'on donnait aux flics. Tu dis bah oui d'accord, mais moi dans le film je l'ai pas quoi, je sais pas ce que ça veut dire quoi. Donc je trouve la scène très très drôle quand t'as la jambe poilue, t'as une scène très très bis où t'as une jambe qui vient attaquer des gens et ça dure 3 minutes et c'est super drôle, il vient attaquer des gays, tu dis c'est super marrant, mais j'ai pas du tout la ref pour comprendre le côté
c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est à dire qu'en fait le film s'appelle L'Agent Secret, qui est un film un peu trompeur parce qu'en fait il n'est pas vraiment question d'espionnage. Par contre tu retrouves du film d'espionnage ce même sentiment d'être perdu,
et sur la question des archives,
ouais, et en fait c'est vrai, c'est plus la narration du film en fait qui emprunte au film d'espionnage plutôt que les personnages du film, le récit du film lui-même en fait. Et moi c'est ça que j'ai, moi par exemple j'ai beaucoup aimé le fait que la première heure et demie j'étais complètement perdu quoi, et justement moi je suis retombé sur mes pattes avec la topographie de la ville, et dès qu'on arrive à la scène du cinéma qui est une scène centrale parce que il y a quelque chose qui se dit en fait dans cette scène-là. Et là, c'est intéressant parce que le lieu de la projection, c'est aussi le lieu de la révélation. C'est-à-dire que dans les coulisses de l'espace de projection, où on passe la malédiction de Richard Donner, il y a quelque chose d'autre qui se dit. Et là, on comprend que en fait, ce dont on parle, c'est à la fois de 77, mais c'est aussi de 2025. Et je trouve qu'il y a... Voilà, j'ai trouvé ça assez passionnant, moi, comme film. Même si j'étais un peu perdu, quoi. Tu vois,
et j'ai apprécié d'être perdu. Moi, je suis passé à côté, mais ceci dit, depuis que je l'ai fini, on va dire, en tout cas, j'ai encore des images qui me viennent en tête et j'ai encore des interrogations. Donc, c'est vraiment un film que j'aurais envie de revoir.
T'as pas vu son docu, toi?
J'ai pas vu le docu.
Moi, je te conseillerais presque de regarder Portrait Fantôme, parce que je trouve que le fait d'avoir...
On en a parlé dans notre émission l'année dernière, d'ailleurs.
Et le fait d'avoir vu Portrait Fantôme, moi, ça m'a aidé quand même, à bout d'un moment dans le film, pour reconnaître les lieux, en fait. Et me dire, ah ouais, ok, d'accord.
Avec Aquarius, il retrouve pas mal les mêmes lieux.
Mais moi, j'ai l'impression que la cour dans laquelle il arrive au début, dans l'espèce de résidence, c'est l'arrière-cour de Aquarius.
Qui est là où il habitait, en fait.
Alors, c'est pas là où il habitait. La maison d'Aquarius, c'est pas là où il habitait. C'est la maison des bruits de récif.
Oui, c'est ça.
Et dans lequel il a tourné.
On n'est pas dans une émission People, là.
Non, mais par contre, le truc, c'est que Kléber, et là, c'est aussi en ça que c'est un auteur pour moi, Kléber Mendoza-Filho, c'est que c'est un mec qui parle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de son propre vécu, en fait. Alors, évidemment, un vécu dont nous, on n'a pas forcément les refs, mais il y a quelque chose de très autobiographique dans son cinéma. Musique, par exemple, qu'on entend dans les films, la musique que les personnages écoutent dans ces films, c'est de la musique que lui il aime en fait et que lui il écoute, et c'est la musique de ses parents. Enfin, il y a tout un rapport. Son père est remercié à la fin. Avec son père, ça a été compliqué. Enfin, il y a quelque chose de très très intime en fait qui se joue en fait dans son cinéma. En tout cas, pour l'instant, Bacurao un peu mis à part, puisque Bacurao il avait été tourné avec son directeur de la photo.
Un film un peu plus excessif.
Voilà.
C'est
super bien.
Qui est une série B. Qui est une série B comme la jambe poilue.
Où t'as des fachos du sud qui viennent faire chier.
Où t'as Udo Kier.
Qui viennent faire chier des gars qui font de la permaculture à poil et qui prennent des champignons et du coup ils vont leur faire sa gueule.
Dire que c'est une série B, faut pas. Hein. C'est pas une série B. Hein.
Et l'agent secret, d'ailleurs, festival, c'est. Tu parlais de Udo Kier. L'agent secret, c'est le dernier film du coup.
Ouais, effectivement, oui, il joue un petit rôle dedans.
Oui, parce qu'Udo Kier est mort. Je pense que l'équivalent du cinéma est mort au Brésil pourrait parler des films du Kechiche. Pour dire, c'est tellement français, on ne connaît pas, on n'a pas trop les références, mais c'est quand même assez intéressant. C'est en tout cas le versant que j'ai, en tout cas, moi, de regarder, de ne pas avoir.
Lo grosso culo, les quechiches.
Mais je vois ce que tu veux dire, parce que quand Antonin évoque les codes pour justement cerner un petit peu, ou apprécier en tout cas, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, évidemment, je pense qu'il y a plein de spectateurs qui, devant le Tarantino, se sont-ils largués. Nous, on avait les codes, on avait les refs, et du coup, on a profité complètement du film, et face à l'agent secret, t'as pas ses codes, en fait tu profites pas du film de la même manière.
Oui, je pense. Mais
tu peux en profiter quand même, même sans avoir toutes les références.
C'est moins immédiat comme cinéma.
C'est moins immédiat.
C'est un cinéma plus plus ésotérique. Alors après, est-ce qu'on peut considérer que c'est prétentieux parce que c'est ésotérique? On peut le voir aussi comme ça. Et moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce film-là. D'ailleurs, c'est marrant. J'ai rêvé cette nuit qu'il y ait quelqu'un. C'est marrant, en anticipant l'émission, j'ai rêvé cette nuit que je tombais sur quelqu'un. Alors pas l'un d'entre vous, hein, mais qu'il y a quelqu'un qui me disait. Mais l'agent secret, c'est nul. C'est nul à chier.
C'est
un film pourri. Et moi, je disais, comment ça, c'est un film pourri? Mais pas du tout. Et donc, j'étais scandalisé. Je me suis réveillé scandalisé.
Je trouve que c'est très bien pour clôturer cette émission, cette première émission consacrée à l'année 2025, d'être scandalisé dès le réveil et d'être scandalisé peut-être par cette émission.
Dès
2026. Dès 2026. C'est fou, ça. Merci à vous tous. Merci, Thomas et Erwan, d'être enfin sortis de votre studio luxueux d'étudiants avec plein de moyens, alors que nous, on est là à gérer avec un matériel préhistorique.
Oui, mais nous, on a des chocobons.
Et c'est ça, plein. On a un paquet
chacun. Tu sais que si tu as des problèmes, tu peux peut-être faire remonter à ta présidence.
Oui, bien sûr.
Ou à ta direction.
Évidemment. Mmh. Bien sûr. Merci Thomas de proposer ces solutions évidentes.
Vous êtes une asso, vous êtes une équipe, vous travaillez de concert.
Immédiate. Merci Jules Topoc d'être présent avec nous. Vous restez bien évidemment puisque tout va continuer. Merci Antonin Moreau, docteur, d'avoir été présent. On continue bien évidemment. Donc cette première partie, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Canal B. Et puis la suite, vous pourrez la retrouver aussi bien évidemment sur Internet ou nous écouter sur la radio native en branchant votre transistor.
Internet est sur ordinateur maintenant.
Ah oui, c'est vrai, vous pouvez aller sur un ordinateur. Merci Thomas.
Et, le fact-checking, toujours.
Et on va se quitter avec un film dont on n'a pas parlé dans cette émission, c'est dommage, c'est le film de Guillaume Braque qui est sorti cette année, que je n'ai pas vu moi non plus. Parce que
c'est un programme de deux moyens métrages.
Je n'ai rien vu. Et donc ça s'appelle Ce n'est qu'un au revoir, c'est ça hein.
Ça, c'est le titre du programme
Ce n'est qu'un au revoir et un pincement au cœur.
Voilà. Eh bien, écoute, on va écouter un extrait de Ce n'est qu'un au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Continuez l'écoute avec les prochaines émissions.
Merci à toi, Étienne.
Oh, vous êtes trop.
Guillaume Braque sera à l'Arvor dans deux semaines. Hein.
Oh, trop bien. Merci, Antonin.
Preview, attention.
Mais alors là, il a repris sa casquette de patron.
Tout à fait. Ça y est, il en profite. Il fait de la retape honteuse.
Et c'est quel prix? C'est pas cher, votre cinéma?
À très bientôt. Merci
d'avoir été pour 2026.
Ça suffit de parler de l'Arvor. On se retrouve très vite. Ciao.
Au TNB.
Tu sais ce qu'elle m'a dit hier, Jeanne? Attends, non, sors pas un truc trop bizarre. Non, c'est pas bizarre.
Vas-y.
Un truc qui me paraît un peu impossible, matériellement parlant. Waouh. Elle m'a dit que...
Non, j'ai peur, arrête-toi.
Elle pouvait plus mettre des Sarouel pour l'année prochaine.
Ah oui.
Mais moi, je lui ai dit, mais... C'est 90% de ta garde-robe, Jeanne.
Non, mais je parle pas des sarouels comme ça, là. Je parle pas de ça. Ça, c'est un sarouel, mais c'est pas un sarouel. Les sarouels, vraiment, genre, sarouel, tu vois. Mais pourquoi? Mais parce que je suis considérée, quand tu mets un sarouel, on dit, ouais, t'es considérée comme une personne plutôt lambda, tu vois. Tu mets un sarouel en pleine ville à Grenoble, au milieu de la rue, t'es considérée comme un clochard.
Non, mais Jeanne, t'as vu la licence dans laquelle tu vas? Tu peux mettre des sarouels, hein.
Je vais... En sciences humaines appliquées.
Ouais, bah justement.
Mais c'est un dérivé de Sciences Po.
Non, mais c'est sciences humaines appliquées, Jeanne, crois-moi que c'est Babosland aussi, hein.
Ah, mais ça me rassure.